Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Lay, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante, même si la manière de les présenter parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques. Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Noël Goutenoir.
Chers auditeurs, bonjour et bonne année. Nous allons parler aujourd'hui des revendications et des plaintes du tiers-état dans la première quinzaine de mars 1789 en Forêt et Beaujolais. Cette émission se déroule en deux parties. Aujourd'hui, une présentation générale de la situation de la France à cette époque. Et la semaine prochaine, des doléances prises dans les cahiers de doléances locaux. En 1789, la France ne se porte pas très très bien. Pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que la société française est totalement bloquée. Elle est bloquée parce qu'elle est restée sous statut féodal depuis le Xe siècle environ. C'est-à-dire qu'elle est divisée en ordre absolument immuable. On distingue en effet ceux qui prient, et qu'on appelait en latin les oratores, le clergé, ceux qui combattent, les bellatores, la noblesse, et enfin ceux qui travaillent, les laboratores, tous les autres, qu'on appelle le tiers-état. Ces différents ordres ont la caractéristique d'être totalement hétérogènes. Il n'y a rien de commun entre le paysan sans terre de Machézal, par exemple, et le riche bourgeois lyonnais qui travaille dans le textile. On a le même débat, le même problème que l'on rencontre dans le clergé, puisque le petit curé de campagne qui perçoit la dîme n'a aucun rapport avec l'évêque de Mâcon, par exemple. Cette dernière catégorie, à savoir le tiers-état, qui ne participe en aucun cas aux décisions politiques, représente environ 98% de la population française. Deuxième blocage social, la monarchie absolue persiste. En 1787, Louis XVI, qui avait été l'objet d'une remontrance, s'est écrié « c'est légal parce que je le veux ». C'est un aveu criant d'absolutisme. Alors que pendant ce temps-là, la France change, la France évolue, la France s'industrialise, s'ouvre au commerce. Et dans cette France, la bourgeoisie entend jouer un rôle politique alors qu'elle en est écartée. Deuxième élément majeur de ce qui va mal en France, une crise économique, qui est d'abord une crise rurale. Les campagnes ont été frappées par des inondations en 1787, puis par la sécheresse et la grêle en 1788. Les récoltes ont été extrêmement maigres, ce qui a entraîné une crise de subsistance qui a été analysée par un historien qui s'appelle Camille Ernest Labrousse. La famine, la misère, le chômage, la mendicité et l'insécurité frappent l'ensemble du royaume, aussi bien en ville qu'en campagne. Et d'autant plus en ville, les problèmes sont augmentés dans la mesure où l'industrie française a été concurrencée par un traité de libre-échange avec l'Angleterre qui fait que les produits anglais arrivent sur le marché français avec un coût bien inférieur à ce que les Français produisent. Troisième élément de crise, un État en faillite. Depuis de nombreuses années, les dépenses du royaume sont beaucoup plus élevées que les recettes. Et en 1788, plus de la moitié de ces dépenses servent à rembourser la dette. Alors, ça n'empêche pas la cour de se complaire dans un faste choquant pour ceux qui crèvent littéralement de faim et qui payent les impôts. C'est dans ce contexte d'agitation permanente que Louis XVI, qui est beaucoup plus éclairé qu'on ne le prétend en général et qui est conscient des réelles difficultés du royaume, décide de convoquer ce qu'on appelle les États généraux. Les États généraux, c'est une assemblée extraordinaire réunie dans des circonstances exceptionnelles où sont représentés les trois ordres dont on vient de parler, dans lesquels sont évoqués les grands problèmes du royaume. La dernière réunion date de 1614, c'est dire que ces États généraux sont quand même tout à fait étonnants et exceptionnels. On rajoutera que ces États généraux n'ont absolument aucun rôle législatif, c'est une simple chambre d'enregistrement. Le 24 janvier 1789, le roi fait paraître un décret précisant « Sa Majesté désire que des extrémités de son royaume et des habitations les moins connues, chacun fut assuré de faire parvenir jusqu'à elle ses vœux et ses réclamations. » C'est ainsi que dans la première quinzaine de mars, tous les Français, sans exception, sont invités à rédiger ce qu'on appelle des cahiers de doléances. Il en sera rédigé environ 60 000, une très grande partie d'ailleurs a disparu. Ces 60 000 cahiers seront résumés au niveau de chaque bailliage, c'est-à-dire de chaque circonscription administrative, et défendus par des représentants élus. Ainsi, dans les paroisses de Nau, Fourneau, Neulise, Croiset, Vendrange, Saint-Symphorien, Chiras-Simon,
C'est un certain Claude-Marie Deberchou, qui est avocat et châtelain à Lay, qui préside les assemblées. Au total, cette assemblée recueillera environ 1140 députés qui seront désignés pour siéger aux États généraux et qui devront voter ou prendre des décisions par ordre et non pas par tête. C'est à travers l'étude des cahiers de doléances du Beaujolais et du Forêt que l'on a distingué 5 thèmes majeurs et récurrents que nous évoquerons lors de notre prochaine émission Micro-Histoire, la semaine prochaine sans doute. Merci.
Micro-Histoire sur RVR, présenté aujourd'hui par Noël Goutenoir.